Le huitième soleil par Richard Keller, chapitre 28. Gilles et Sagol méditaient sur les résultats de l'autopsie. L'aspect croustillant de l'affaire étant désormais évacué, ils réfléchissaient sur d'autres éléments. Le corps de l'inconnu du campanile ne portait aucune trace de sévices. Ses ongles des pieds et des mains laissaient supposer un entretien fréquent. Le légiste avait d'ailleurs précisé qu'ils avaient fait l'objet de soins 2 jours auparavant. Ils envisagèrent de visiter les instituts de beauté vénitiens, mais ils émirent cette idée sans grande conviction. Cette piste pourrait s'avérer pertinente seulement si la victime habitait Venise, ou si elle séjournait depuis plusieurs jours dans la lagune. Une logique identique les amena à évoquer le bronzage intégral de la jeune femme. Un tel hâle ne pouvait être obtenu que dans une cabine. Décidément, se dirent les enquêteurs, les salons de soins corporels et d'esthétique bénéficiaient d'une fréquentation assidue de la geisha. Après la découverte des boules dans l'intimité de la victime, les Italiens l'avaient rapidement rebaptisée. Sagol aimait les situations délicates. Il se sentait bien là où les autres commençaient à douter. La difficulté des enquêtes lui procurait un supplément d'adrénaline et la pression augmentait ses capacités. Gilles appréciait également les investigations difficiles. Cela pimentait sa vie et il adorait cette facette de son métier. Les deux gendarmes s'attaquaient à présent à un sacré plat de résistance et ils venaient d'absorber la première bouchée. Il leur faudrait digérer tout le reste et arriver à identifier la composition de l'assiette. Le commandant Litchi marmonnait dans un coin de la pièce. Son tempérament latin s'exprimait à travers ses gestes. Malgré ses mimiques, sa perplexité se percevait aisément. Le brave homme donnait des ordres, mais dans son fort intérieur, il évoluait dans le brouillard le plus complet. Sa position de meneur l'empêchait de reconnaître l'impuissance de ses services devant ce crime insolite. Il faisait de grands moulinets avec ses mains, mais personne n'était dupe. Il convenait de reprendre l'enquête depuis le début et de revoir certaines auditions. Les recherches effectuées auprès du personnel des hôtels ne semblaient pas satisfaisantes. 2 équipes différentes repartirent à zéro et entreprirent un travail de fourmi. Litchi ne comprenait pas. Il devait bien exister un garçon d'étage ou un portier qui avait remarqué le comportement particulier de certains clients. Le retour d'informations paraissait trop lisse pour être acceptable. Le commandant mesura immédiatement le danger de son initiative. Il s'avéra fin stratège et désamorça sur le champ la mine qu'il venait de poser. Il expliqua que la permutation des groupes permettrait une approche différente et servirait la recherche de la vérité. Afin de ne pas désavouer ses hommes, il confia aux anciens le soin de recueillir des indices auprès des salons de beauté de la cité. Le chef se révéla convaincant et chacun repartit plein d'espoir à la conquête de révélations décisives. Les 2 Français se penchèrent de nouveau sur les photos du visage de l'inconnu, scrutant les moindres détails. Gilles fit une remarque concernant les oreilles de la femme blonde. Il remarqua l'absence de boucles, malgré le double piercing à chaque lobe. Ils épluchèrent le compte-rendu du légiste. Aucun commentaire ne faisait état de ce constat. Ils demandèrent au commandant Litchi de faire procéder à une expertise supplémentaire afin d'éclaircir ce point. La réponse du responsable du service médico-légal intéressa vivement les policiers. L'examen confirma ce que supposait Gilles. La victime portait souvent des boucles, et notamment peu avant son décès. Une question taraudait Litchi et les Français. Pour quelle raison n'arborait-elle pas ses bijoux? Sagol montrait des signes d'impatience. Le visage de cette femme lui semblait familier, mais il n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans ses souvenirs. Il souffla à Gilles qu'il se souvenait d'une émission de télévision. Ce dernier adhérait également aux propos de son ami. Cette blonde faisait très certainement partie du paysage audiovisuel. Ils dressèrent l'inventaire des jolies plantes du petit écran, éliminèrent quelques potiches, mais ne parvinrent pas à poser un nom sur l'inconnu du campanile. Les 2 hommes décidèrent d'employer les grands moyens. Ils téléphonèrent à Paris et envoyèrent une photo par Internet. 3 minutes plus tard, un cliché apparaissait sur l'ordinateur du commandant Litchi. un article dans un journal du soir parlait d'Isabelle Rivet. La jeune présentatrice pressentie pour animer une émission de télé-réalité en prime time. Elle ressemblait trait pour trait à la victime, la geisha, comme la surnommaient désormais les Italiens. Il s'agissait bien de la même personne et elle portait des pendentifs aux oreilles. Gilles apporta l'entrefilé au commandant Lichy et le commenta. Ce dernier demanda aux deux hommes de faire procéder à des analyses ADN de parents proches de la défunte. Le lieutenant Gilles contacta la cellule de recherche et précisa que cette opération devait être réalisée dans le plus grand secret et à l'insu de la famille. Les gendarmes répondaient à ce type de demande plusieurs fois par mois. Il suffisait de récupérer un mégot ou une feuille de papier et le tour était joué. Gilles leur adressa une autre requête. Il désirait plusieurs photos montrant Isabelle Rivet avec des boucles d'oreilles.